en coloc. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Est-ce qu'on peut réserver un quart d'heure là pour m'assaillir ou m'agonir de questions, enfin ? Vous allez être d'accord, messieurs ?
Oui.
Oui, un quart d'heure, ça suffira. Et puis ensuite, je donnerai la parole à Dabila, et puis nous terminerons par vous cette matinée. Bon, ben, je vous écoute. Oui.
C'est juste à propos du calcul des probabilités. J'ai noté risques égaux, minimisation des risques et optimisme. Et je me demande si on peut ajouter les gains assurés. Je suis en train de penser au Basiji ou bien au Shahid, aux combattants de la guerre d'Iran. Ou victoire ou défaite, de toute façon, on arrive, je veux dire, au Valhalla.
Oui.
Et donc là, le gain est absolument assuré. Alors je me demande si vous le classeriez là-dedans, dans le calcul des probabilités, ou ailleurs.
Il faut que j'y réfléchisse. Bien entendu, j'ai pensé à ça. Mais Monsieur Dabila en parlera. Donc la dimension religieuse, mais la dimension religieuse est incluse dans la dimension culturelle, je crois. En ce sens que c'est ce qui permet ou a pour conséquence d'exploiter les points de variation, parce que toutes les religions ne promettent pas aux guerriers morts au combat le paradis, pour simplifier. Ça se trouve dans des sociétés, disons, primitives, tribales, je suppose que Mme Taylor en parlera, où il y a le paradis des guerriers, enfin réservé aux guerriers. Et puis, bon, du côté islamiste, en tout cas actuel, c'est quasiment caricatural. Enfin, bon. C'est pas psychique, à mon avis. Même si, dans une culture qui développe cette idée, forcément, les psychismes peuvent l'assimiler, l'intégrer. Et donc, je vois ce que vous voulez dire. Mais vous avez raison. Enfin,
c'est pas psychique, même
ben non.
Si on imagine que le sujet se dit, pense, si je fais ceci, je suis sûr d'obtenir cela. Il y a quand même un acte de pensée.
Mettrez, si vous voulez, dans la dimension que j'appelle anthropique, parce que là, ça a un côté délibéré, si vous voulez, sous influence culturelle, et avec un formatage psychique probable. J'ai développé toute une théorie, si vous voulez, de la nature humaine en quatre dimensions. Ce sont des dimensions, ce ne sont pas des strates juxtaposées. Dans tout ce qui est humain figure dans cet espace plus ou moins proche de telle ou telle dimension. Donc, bien entendu, il y a un aspect psychique, mais j'introduirai ça en tant que facteur culturel déterminant des variations. Par l'entremise de l'anthropique et du psychique, mais dans cet ordre-là. Je ne sais pas si vous... Ça fait partie, j'ai parlé à certains moments de récompense, si vous voulez.
Ça pose le problème de temporalité, de la psychique et de ce qu'on entend par calcul.
Je saisis, d'abord, on ne peut pas tout dire, si vous voulez. J'ai une vision stratégique des choses humaines. Nous sommes une espèce à qui des problèmes sont adressés du fait de sa liberté, et nous passons, notre existence individuelle et collective à essayer de résoudre ces problèmes. Alors, ces problèmes ont une dimension, elles aussi, une dimension culturelle, psychique et biologique. Mais là, la biologie, enfin, bon, c'est le cerveau. Je suis incompétent, donc je n'en parle pas. Je suppose que d'autres peuvent en parler. Et donc, pour moi, j'ai une vision du psychisme humain. Je ne parle pas en termes d'inconscient, mais on peut l'utiliser, si vous voulez, comme également des stratégies, comment dire, spontanées, non pas délibérées, mais que notre psychisme fabrique, si vous voulez, pour résoudre tel ou tel problème intérieur ou problème qui est adressé par l'extérieur. Et voilà le cadre général, si vous voulez. Voilà ce que j'entends par donc calcul dans le cadre de stratégie, si vous voulez. Et il est clair que je note que les promesses, si vous voulez, de ce type doivent jouer un rôle, bien entendu. Ben, certainement. Oui.
À la fin, vous avez parlé des discours glorieux.
Oui, oui.
Et je pense à un passage de la guerre du Péloponnèse de Thucydide, où il dit que les guerriers qui vont mourir au combat ou qui sont morts n'ont pas de stèle. Le but vers stèle qu'il leur est accordé, c'est d'exister dans l'esprit de la mémoire de ceux qui viennent après.
Oui.
Faut que je le retrouve, ce passage.
Ça doit être dans le discours de Périclès.
Oui, dans le discours de Périclès, c'est ça.
Oui. Oui, mais c'est typiquement grec, ça. Périclès, c'est la fin du 5e siècle, enfin, le dernier tiers du 5e siècle. Homère, on ne sait pas trop, mais 8e, 7e siècle, c'est déjà là. Enfin, c'est vraiment... Comment dire, les Grecs ne croyaient pas à l'éternité. Les enfers, ce n'est pas un lieu recommandable. On s'y ennuie prodigieusement. Donc, ils ne visaient pas l'éternité. Je pense que ça n'avait pas de sens pour eux. L'immortalité. Et la seule immortalité accessible aux êtres humains, c'est la mémoire de ceux qui viendront après. Et donc, c'est explicite et bien formulé, et je dirais juste, dans ce cadre de référence-là. Alors, évidemment, ça n'a rien à voir avec ce que vous évoquez. Enfin, pas grand-chose avec ce que vous évoquiez.
Ils vont exister dans la mémoire des autres.
Vous n'êtes pas d'accord ?
Je ne suis pas sûr d'avoir saisi.
Mais pour les Grecs, l'immortalité, c'est la mémoire des vivants, de générations successives. Là, la récompense du guerrier qui accède à une forme d'éternité, c'est sensiblement différent.
Il continue, le Basilji continue d'exister dans la mémoire des vivants et d'être révélé parce qu'il offre un exemple à ceux qui vont ensuite se sacrifier. Il y a le côté exemplaire de l'acte de sacrifice. Enfin, je me sens,
Oui. Oui, mais ce n'est pas incompatible avec l'insistance sur la récompense personnelle que l'on retire.
L'immortalité, c'est une variation culturelle de ce que Platon appelle d'ailleurs le thumos, c'est-à-dire la reconnaissance.
Oui.
La reconnaissance à l'échelle d'une société, il me semble.
Oui, non, mais c'est ce que je veux dire. Oui. Oui. Mais je ne sais pas, vous ne voyez pas même de différence, presque de nature, de nature entre, je ne sais pas, la récompense promise là-haut, vous en parlerez, enfin, la tentation suicidaire, si vous voulez. Oui, donc lui, ou bien c'est le sacrifice pur. C'était le Viet Minh ou le Viet Cong ou le Kamika, enfin, ça c'est à voir, enfin, vous en parlerez, qui n'attend pas de récompense au sens explicite du terme, et le djihadiste qui va accéder enfin, au paradis, où 77 vierges dont la virginité se reconstitue chaque jour, je ne sais pas ça. Entre nous, s'il y avait il y a des dames, j'en dirais plus. Ça me paraît un peu bizarre comme aspiration. C'est comme ça. Et c'est tout de même un peu différent. Le guerrier, Iroquois ou un autre, qui accède au paradis des guerriers, morts au combat, c'est tout de même un peu différent.
J'ai connu un kamikaze qui est venu à Paris il y a une dizaine d'années. Je me suis entretenu avec lui pendant une heure. Il avait un bras coupé et une jambe coupée. parce qu'il s'est fait descendre par la DCA américaine avant de toucher son navire. Mmh. Il m'a dit que toute sa vie, il avait honte. Oui. Il vivait honteux
d'avoir survécu.
Il était historien.
Vous l'avez aussi dit il y a une dizaine d'années.
Oui, oui, oui.
Ce qui était honteux, c'est le fait d'avoir dû surtout se rendre, alors que c'était interdit par les autorités militaires. Et s'il y avait eu un peu de courage, il se serait montré.
Oui, oui, c'est en principe.
Il a manqué de courage.
Il était pilote. Il était pilote, il était dans la flotte. Il était dans la flotte, inconscient, les Américains l'ont repêché.
Ah oui, oui, non, là, M. Siari a raison. Dans le cadre du Bushido, si vous voulez, la mentalité samouraï, hein, il aurait dû se suicider. Peu importe combien de temps après. Par exemple, le chef, enfin le général, dont j'ai oublié le nom, qui commandait les troupes, appelant ça ainsi, de kamikaze, s'est suicidé après. Et c'est logique, enfin je veux dire, on comprend, quoi. Il ne pouvait pas faire autrement. Hein.
S'il vivait dans la honte et pas dans la culpabilité, c'est sans doute que le regard des autres, le jugement des autres, lui importait plus que le propre jugement qu'il portait
probablement les deux,
sur sa survie.
Et je pense que c'est parce que, précisément, il était encore en vie. Et pas parce qu'il avait manqué sa cible, ça fait partie des aléas de la guerre. Je m'avance peut-être, mais...
Ça, il pense, c'est toute la garnison, plus les civils, qui sont suicidés. La grenade, c'est la première île japonaise qui était envahie, c'était en juillet 1944, envahie par les Américains. Les civils, il y a eu des rescapés, des gosses qui ont raconté comment, au dernier moment, ils ont dit « Maman, je ne veux pas mourir ». Les autres, ils se suicidaient allègrement.
Alors, voilà. C'est pas japonais, enfin inscrit dans les gènes japonais. C'est un formatage idéologique et assez récent. Cette idée, on ne se rend pas. Alors ça, c'est samouraï, ça, c'est Bushido. Le soldat ne se rend pas. S'il est vaincu, il meurt. Enfin, bon, on meurt au combat, voilà. Donc ça, tout de même, ça remonte à loin, à l'époque féodale, c'est l'avant XVIIe siècle.
Oui. Le souvenir me vient comme ça, mais le commandant du 57e régiment d'infanterie de l'armée turque, qui était Mustafa Kemal, au moment de la bataille d'Arabie, dit à ses hommes, je ne vous ordonne pas d'attaquer, mais de mourir. Ouais. De rentrer. Et on va retrouver le phénomène partout. Je veux dire.
Oui, mais c'est...
Churchill à Singapour, qui se taille une réputation de samouraï en disant, comment s'appelle-t-il la bataille de la Marne, son nom, je crois qu'il demande de tenir jusqu'au bout.
Ça, je veux dire, c'est bon, ça fait partie des règles du jeu, si je puis dire. Là, la question posée par les cas japonais ou autres, c'est comment tout cela est intégré par des acteurs, et en particulier par des civils qui n'ont pas de raison, si vous voulez. Or, de fait, j'avais pas mal étudié ce dossier des suicides japonais, pas des soldats seulement, mais des civils dans les différentes îles conquises, dans ma thèse sur les suicides, précisément, parce que c'est un cas peu banal, enfin, sinon unique, du moins, c'est pas très fréquent.
Les questions très difficiles de l'honneur.
Excusez-moi, vous êtes ce matin, il faut allumer, donc appuyer sur... Vous êtes enregistré.
Je crois que vous tournez autour de la question très difficile de l'honneur.
On en a parlé ce matin.
C'est fondamental pour le guerrier.
Oui.
C'est celui-là qui explique ce que vous dites.
Oui, enfin bon, c'est un aspect en tout cas. Oui. Si ça marche, c'est... Voilà, et enlevez votre doigt. Ah bon?
Ah, mais peut-être que. Ça ne marchait pas pour moi non plus, puis là ça marche, je ne comprends pas très bien. C'était pas vert en fait.
Oui, ben alors ça marche à côté. Non, ce que je veux dire, c'est avec le djihad, enfin, parce que c'est ça le djihad qui est derrière la guerre sainte, à mon avis, on est dans autre chose que dans. La déclinaison que vous avez faite rentre bien dans la civilisation occidentale, avec effectivement des marges ailleurs, mais c'est très particulier de vouloir. De savoir qu'on va directement au paradis. C'est un formidable élément protecteur sur le plan psychologique.
C'est bien d'accord.
Et vraiment, c'est-à-dire, et on n'a pas nous l'équivalent en Occident de ça, même si les soldats faisaient leur testament avant, recevaient l'extrême onction, etc. Ce qui fait que normalement, moi je vois par exemple les militaires du 1er 17e siècle se poser des problèmes en disant j'ai tué un homme, mais est-ce qu'il a pu aller au paradis? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'est pas mort en état de péché mortel? Alors c'est pour ça que l'Église a arrangé l'affaire pour que tout le monde parte sans péché mortel. Mais c'est très important, ça, parce que c'est un vrai. Ça leur a posé problème, parce que c'est l'époque baroque, hein, et c'est une période d'état d'âme, et ils ont beaucoup d'état d'âme dans les textes, dans leurs récits, mais ça me paraît important. C'est un élément protecteur très, très puissant, parce que la société l'attend. Et que la famille, etc., est récompensée, on est bien d'accord, et elle a un héros dans sa famille, etc. Mais lui aussi, il sait que directement, il y va. Ouais. Et alors, vous rigoliez sur les vierges. Moi, j'ai entendu un truc absolument hallucinant de jeunes femmes qui ont été prises en Israël, qui se trouvaient emprisonnées, musulmanes, en Israël, parce qu'elles allaient faire des attentats. Et alors, question, on leur pose, et dit, et vous, alors, vous allez où si vous aviez réussi? Elle a dit, eh bien, directement au paradis. Et à ce moment-là, on lui a posé, et alors? Et ces jeunes femmes ont dit, eh bien, nous serions vierges toutes les fois, et tout ça. Et là, on reste quand même absolument sidérés. Et elle se voyait dans les fameuses vierges qu'elle a été mise à la disposition des... Voilà, c'est extraordinaire.
Cette histoire d'un espace au-delà, il me semble que c'est un invariant, tout de même, et qu'on va vraiment le retrouver transséculairement. Mais ça pose la question de... Et ça, c'est très difficile en termes de méthode.
Elle est partie.
Parce que c'est pas possible.
Non, mais il suffit.
Oui, non, mais on sera un peu plus dans la paix.
Et donc, ça pose une question en termes de méthode. On arrive à faire valoir que les gens disent on va se retrouver au sanctuaire de Yasukuni, ou on arrive à trouver, par exemple, le dernier Goncourt qui s'intitule tout de même Au revoir là-haut. Hein. Mm-hmm. Bon. Mais dans quelle mesure est-ce qu'ils y croient? Dans quelle mesure est-ce qu'il ne s'agit pas d'un exercice où dire c'est faire et c'est se faire croire? Et ça, c'est beaucoup plus délicat à mettre en évidence. Et, de mon expérience, c'est souvent impossible, quoi. Sauf peut-être dans les pays chrétiens où l'exercice de la confession, peut-être. Mais en général, c'est très difficile. C'est une façon de se faire croire, donc de se motiver, de s'encourager. Après, la sincérité du sujet vis-à-vis de lui-même, très, très difficile. Très difficile.
Ce qui va se faire sauter. Ouais. Ils y vont.
Oui, ah oui, ouais, là, on a... Ouais.
Oui, bravo.
Vous parliez de la discipline. Oui. Il y a un passage de la thèse de Bousseau sur le peur aux armées. Dès le début de la guerre en Belgique, il a assisté à 3 attaques de suite du même régiment en pantalon rouge qui à chaque fois se décimaient par les mitrailleuses allemandes. Que les premiers étaient surpris, d'accord, mais les deuxièmes et troisièmes attaques, ils savaient qu'ils allaient à la mort. Et Bousseau dit c'est la force de la discipline.
Et ça, c'est un ancien combattant de 14, mort depuis longtemps. Enfin, il avait survécu. Qui dit, son fils, qui était un de mes amis, lui avait demandé, mais enfin, comment faisiez-vous pour sortir des tranchées? C'est parce qu'on avait peur. Mais comment vous ne pouvez pas fuir en arrière, on fuyait en avant.
Oui.
C'est intéressant.
La fuite en avant, c'est connu. Dans nos tuyaux de psychiatrie, c'est la fuite en avant.
Avant 14, en France, il y a le général Lucien Cardot et le lieutenant-colonel Montaigne qui bossent sur l'idée de mort certaine. Et cette idée de mort certaine est notamment tirée des Russes qui, eux, tablaient sur l'expérience japonaise qui, dans la guerre sainte, la guerre russo-japonaise, hein, expressément qualifiée de guerre sainte, hein, prônait la mort certaine. Et avant 14, à l'école supérieure de guerre, ces idées-là passent. Hein, on a ça déjà dans la tête, il me semble. Non, lieutenant-colonel Montaigne, dont j'ai pas réussi à trouver le prénom, et puis général Lucien Cardot, 1883-1920.
Justement, on parlait de...
Excusez-moi, hein, je ne voulais pas...
Il faut mettre fin au jardin, là, en passé.
Juste un petit mot quand même sur tout petit sur les groupes. Il y a la notion, vous n'avez pas employé le mot, mais bon, c'est juste parce qu'on n'a pas employé le mot, mais elle est sous-jacente, c'est le groupe primaire dans les armées, c'est essentiel. C'est ce que vous allez aussi en parler. Donc,
voilà. Ça veut dire quoi, ça?
Le groupe primaire dans l'unité de base qui fait que, par exemple, l'armée allemande sur le front de l'Est n'a pas craqué. On a dit qu'elle avait craqué, mais ce n'est pas vrai, etc. Et ce groupe, il est fait de solidarités très intenses qui sont faites autour du copain, du camarade, etc. Et ça, si ça n'existe pas dans les armées, on peut être sûr qu'il y aura un vrai, vrai problème. Ce qui pose un problème actuel là-dessus.
Allez. Je fais acte d'autorité. Merci. Mais j'ai enregistré, là. Il faut insister enfin, sur cette dimension-là. Et donc, je donne tout de suite la parole à M. Dabila. Il y avait une erreur tragique sur le programme. C'est marqué Anthony Dabila, doctorant. Pas du tout, il est docteur. Et en tout début de carrière, donc, il a fait sa thèse... sous ma direction, disons, intellectuelle et pas administrative, parce que je partais à la retraite, je ne sais pas quoi. Enfin, disons, c'était un de mes plus brillants étudiants et qui a fait une thèse fort remarquable et remarquée, dont j'espère qu'elle sera publiée. Et surtout qu'il trouvera un emploi, parce que les jeunes, aujourd'hui, sont dans une position, disons, délicate. Vous avez la parole.
Donc, je vais essayer de répondre un petit peu à la questionnement sur la stratégie psychique et la logique religieuse qui est à l'œuvre dans la mort du guerrier, mais aussi dans l'homicide que l'on commet dans la guerre, puisque c'est un élément important, il m'est apparu. Tout simplement parce que c'est un interdit qu'il est nécessaire de dépasser. Alors, la guerre en tant qu'entreprise pour imposer sa volonté à un groupe politique rival implique la transgression d'un interdit nécessaire à la vie en communauté, celui de l'homicide.
Ne lisez pas trop vite, s'il vous plaît.
L'acte de tuer un homme peut prendre plusieurs significations. La mort que l'on donne consécutivement au viol d'une loi est une exécution. Celle motivée par une croyance religieuse est un sacrifice. La mort que l'on se donne soi-même est un suicide. Enfin, celle qui n'est rangée dans aucune de ces catégories est appelée meurtre. Selon l'ethnologue Bruce Lincoln, les êtres humains en tuent d'autres pour bien des raisons et dans des circonstances les plus diverses. Tous les groupes possèdent certaines normes régulant la manière dont ces mises à mort doivent être perçues et jugées. Parfois, ajoute-t-il, elles sont définies comme des meurtres, c'est-à-dire un homicide illicite. Dans d'autres circonstances, ce n'est pas le cas, car il existe des conditions dans lesquelles prendre une vie est légalement, moralement, culturellement ou religieusement édicté et même célébré. Cela est particulièrement valable dans le cas de la guerre. Cette étude n'a pas la prétention de délivrer une théorie explicative du sacrifice guerrier en toutes circonstances et quelle que soit la manière dont celui-ci est inséré au sein du système de croyances que nous nommons religion. Phénomène presque universellement répandu, le sacrifice doit plutôt être étudié, pour prendre les termes d'Edmund Leach, comme un des principes fondamentaux de l'expression rituelle et en tant qu'unité fondamentale de la grammaire de l'action rituelle propre à chaque peuple. L'analyse d'un fait religieux se rapproche ainsi de la méthode linguistique qui étudie et compare diverses formes verbales récurrentes du langage humain, telles que le nom, le déterminant ou encore le verbe avoir dans une proposition subordonnée. Le rapport théorique entre guerre et religion est nul, comme l'a souligné Jean Béchler lors du précédent séminaire. Il existe néanmoins une interrogation éthique primordiale de la religion sur la guerre que nous pourrions formuler ainsi. Y a-t-il une bonne manière de faire la guerre ? Une façon telle que l'on ne renonce pas à sa culture et qu'on ne sombre pas dans la sauvagerie ? Cette façon propre de faire la guerre permet-elle de l'emporter ? Peut-on, en respectant ses propres lois de la guerre, vaincre des peuples dont la force réside dans une culture différente ? Faut-il alors imiter les nations qui s'avèrent plus puissantes pour sauver sa spécificité et jusqu'à quel point ? Les rites permettent indéniablement de surmonter certains problèmes éthiques posés aux guerriers, et une mauvaise victoire peut être pour le croyant pire que la défaite. Il existe donc bien une interrogation élémentaire de la religion quant à la légitimité de la pratique martiale. Mais par quel mécanisme le rapport entre les pratiques et les croyances se fiche-t-il ? Et comment une pratique nouvelle nécessaire à la poursuite de la guerre est-elle rendue licite par la religion ? Un élément de réponse réside dans l'étude du rôle et du sens conféré au sacrifice guerrier. Source constante de tensions et de contradictions, appelant à être dépassée et harmonisée, la guerre a de manière assez régulière et universelle emprunté cette forme rituelle pour que nous soyons en droit de nous poser la question d'un lien conceptuel les unissant. La position classique réduisant le sacrifice à une activité purement religieuse, étrangère à l'exercice de la violence concrète et nécessaire qu'un groupe se doit d'exercer pour survivre, comme la chasse, l'exercice de la justice ou la pratique de la guerre, mérite sûrement un second examen. Cette intervention aura pour but de fouiller un peu plus profondément les correspondances entre guerre et sacrifice en se focalisant sur les sens typiques que peut recevoir la destruction de la vie de l'ennemi et celle du combattant qui accepte les risques du combat. Nous disposerons peut-être ainsi d'une clé supplémentaire pour comprendre et examiner le développement des constructions mentales permettant aux hommes de faire face à l'homicide sans corrompre leurs convictions, leurs croyances relatives à l'ordre du monde et à leur place dans celui-ci. Rappelons brièvement quels sont les divers acteurs du sacrifice. Tout d'abord, le sacrifiant, qui reçoit les bienfaits du sacrifice. Il doit être distingué du sacrificateur, homme doté d'une connaissance religieuse technique, permettant seul d'accomplir la séquence avec l'exactitude nécessaire. Le sacrifié est, lui, l'objet ou l'être vivant détruit lors du sacrifice. Enfin, l'objet du sacrifice est ce en vue de quoi l'on accomplit le sacrifice. Pour résumer, lorsqu'un paysan souhaite faire sacrifier un bélier par un prêtre afin d'obtenir de meilleures récoltes, le sacrifiant est le paysan, le sacrificateur le prêtre, le bélier le sacrifié et le champ l'objet du sacrifice. Le trait distinctif de la consécration dans le sacrifice, note Hubert et Mauss dans leur célèbre essai sur le sacrifice, est que la chose consacrée sert d'intermédiaire entre le sacrifiant ou l'objet qu'il doit recevoir et les effets utiles du sacrifice et la divinité à qui le sacrifice est généralement adressé. L'homme et le Dieu ne sont pas en contact immédiat. Un mécanisme mental commun au sacrifice est donc qu'une fois détruit, certaines propriétés de la victime sont transmises à la divinité à laquelle elle est adressée. La destruction, symbolisant l'abandon, est la manière par laquelle un objet en contact avec le sacré entre en contact avec le sacré ou l'absolu. De là la définition d'Hubert et Mauss, le sacrifice est un acte religieux qui, par la consécration d'une victime, modifie l'état de la personne morale qui l'accomplit ou de certains objets auxquels elle s'intéresse. Ainsi, le sens et la fonction du sacrifice peuvent varier et servir à laver une impureté, éloigner ou guérir la maladie, rendre propice l'action que je vais entreprendre, consulter ou remercier les dieux ou ne pas trop s'attirer leur foudre. Le sacrifice a ainsi pour but de faire rentrer dans l'ordre, de réimprimer de l'ordre ici-bas, grâce à une séquence de gestes parfaitement ordonnés. Il apparaît donc vain de vouloir dégager un sens au sacrifice et à ses innombrables manifestations, tout simplement car le sacrifice, pas plus que la prière, n'a un sens, mais que celui-ci varie selon le contexte doctrinal auquel il est rattaché. C'est ce que Hubert et Mauss avaient déjà saisi dans leur essai. Suivant la fin poursuivie, suivant la fonction qu'il doit remplir, les parties qui le composent peuvent se disposer suivant des proportions différentes et dans un ordre différent. Les unes peuvent prendre plus d'importance au détriment des autres, et certaines même peuvent faire totalement défaut. De là naît la diversité des sacrifices. Appliqué à la guerre, ce postulat nous permet d'orienter notre recherche vers une question précise. Quel sens accordent les acteurs de la cérémonie quel sens les acteurs de la cérémonie accordent à la destruction rituelle ? Répondre à cette interrogation implique cependant d'avoir circonscrit un type précis de phénomène que nous pourrions appeler sacrifice guerrier. Il ne s'agit pas de comprendre comment la guerre tend à favoriser le sacrifice d'un peuple tout entier, ce qui se réfère de ces trois des éléments de bien trop commodes hypostases. Comme l'a habilement formulé Marie Douglas dans son étude classique de la souillure, la représentation rituelle de la mort protège, non point de la mort, mais de la folie. Notre démarche consiste à comprendre comment, avec le matériel rituel à sa disposition, un clergé, un groupe militaire et au final la plupart des membres du groupe politique auquel ils appartiennent, donnent sens à l'acte guerrier, doublement menacé par la mort et l'homicide. Plusieurs champs d'études se dégagent ici. La guerre elle-même peut être l'objet du sacrifice. On sacrifiera alors quelque chose ou quelqu'un pour satisfaire les divinités régissant les puissances à l'œuvre dans la guerre. Souvent plusieurs, notamment selon le lieu, la date, la position des astres, notamment dans le cas grec, qui avait été très bien exposé par M. Polignac dans le dernier séminaire. Les guerriers peuvent aussi être l'objet du sacrifice et se voir imposer des rites de consécration et de purification avant et après les combats, selon des délais tout à fait variables, ou d'autres pratiques servant à les faire communier en un corps militaire cohérent. Enfin, la guerre elle-même peut être vue comme le rite sacrificiel. Les victimes des combats et des violences occasionnées par le conflit sont dans cette optique elles-mêmes les victimes sacrifiées et la mort violente, le moyen d'être consacré. C'est sur cette possibilité que nous avons choisi de nous concentrer. La sexualité, selon un mot habile de Luc de Heuch, ne peut être une source absolue de souillure, sous peine de détruire la culture même dont on prétend l'extirper comme la pourriture. La même remarque et la même conclusion sont tout aussi valables pour la guerre. Quelle que soit sa répulsion pour la violence et la destruction, la religion doit inévitablement s'en accommoder et forger des rituels cohérents avec le reste de sa doctrine pour la rendre acceptable, sinon juste. Toute guerre implique la mort de certains membres de la politique, et en premier lieu ceux choisis pour les combattre en raison de leur vigueur physique ou de leur talent d'organisateur. Chaque guerrier envoyé au front est en ce sens potentiellement menacé par la mort. Accepter d'aller combattre implique en outre d'accepter la possibilité de mourir, de se voir privé de sa vie au profit de la survie du groupe. La question du sens donné par les acteurs du sacrifice peut, à partir de là, être reformulée. Si l'affrontement violent est vu comme l'acte même de destruction sacrificielle, ce n'est pas une simple question, mais une double que nous devons nous poser. En effet, si, en tout état de cause, la guerre suppose que l'on prendra peut-être la vie de son opposant, elle implique en retour que l'on risque de se voir privé de la sienne. Avec la circonstance aggravante qu'en cas de mort, l'individu ayant perdu sa vie dans les combats n'existe plus sous son ancienne forme pour profiter d'une quelconque rétribution. Le dilemme auquel l'homme en guerre est confronté est ainsi distribué en deux volets. Pourquoi ai-je le droit et le devoir de tuer mon adversaire ? Quelle récompense dois-je attendre au don possible de ma vie ? Notre hypothèse est que la croyance consistant à se représenter la guerre comme une activité sacrificielle fournit un faisceau de raisons aisément conciliables avec la foi religieuse. Plus précisément, elle procure quatre réponses typiques à la double interrogation du guerrier. Premièrement, le combattant peut se percevoir comme l'objet sacrifié lors de l'affrontement. Son statut et sa mort ne sont plus ainsi ceux d'un homme mort sans avoir été accompagné par les rites d'usage, mais celui d'une victime ayant offert son existence pour la survie du groupe afin de le perpétuer. Seconde possibilité, le guerrier peut voir dans l'homicide qu'il cherche à commettre un sacrifice et par conséquent considérer son action comme celle d'un sacrificateur. Le statut de l'homicide s'en trouve là aussi modifié. Donner la mort n'est plus le fait d'un criminel ou d'un fou pris de rage, mais plaît à l'absolu, soit en donnant un statut particulier au guerrier sacrificateur, soit en perpétuant un ordre cosmique menacé d'effondrement, entre autres possibilités. Les deux autres sens concernent le statut de l'ennemi. D'une part, celui-ci peut être vu comme une victime dont le sang, la chair et l'âme sont offerts à une divinité les appréciant. Dans ce cas de figure, la destruction de leur vie n'est en rien un meurtre, mais une nécessité ou une faveur qui s'insère aisément dans de nombreux types de systèmes religieux. Enfin, une dernière configuration fait de mon ennemi l'être envoyé par l'absolu pour me faire accéder à un statut supérieur. L'autre est ici perçu comme un sacrificateur, observant un plan divin ou exerçant une forme de justice providentielle venant rétablir un ordre perturbé par les mauvaises actions humaines. Avant de revenir sur quelques exemples nourrissant notre classification, arrêtons-nous quelques instants sur les raisons nous permettant de forger cette analogie. Pointons d'abord le parallélisme de structure entre la mort de la victime sacrificielle et celle du combattant. Proprement immanquable, elle est aisément intégrable à toute religion pratiquant par ailleurs le sacrifice. Dans les deux cas, un être est départi de son existence en vue d'un bénéfice le dépassant et utile à d'autres. De son côté, l'ennemi et les biens lui appartenant peuvent aussi être détruits. Mais cette destruction ne peut être un simple déchaînement de violence. Elle doit premièrement permettre d'atteindre les objectifs politiques du conflit. Elle doit ensuite être comprise dans les limites permettant d'atteindre la paix avec l'ennemi, peut-être l'allié de demain, et ne pas trop effrayer les voisins, qui ne resteront peut-être pas les amis ou les observateurs passifs d'aujourd'hui. L'utilisation de la violence en elle-même contient l'idée d'une régulation qui appelle au respect de pratiques et de rites. Comme le sacrificateur, le guerrier ne peut prendre la vie de sa victime sans qu'aucune règle soit suivie, sous peine de manquer son objectif et de se souiller. Précisons que la pensée sacrificielle ne tire pas ses pratiques d'un néant intellectuel ou d'un quelconque besoin universel de concentrer sur un objet destiné à être immolé les griefs et les mécontentements d'une population, comme l'a proposé René Girard dans une explication moniste très peu satisfaisante. Il s'insère au contraire, comme nous l'a bien vu Marcel Détienne dans La cuisine du sacrifice, dans un système de croyances dans lequel il fait sens. En cela, il respecte des règles précises empêchant que la victime consacrée ne soit manipulée de manière hasardeuse et ne meure en vain, ou pire, ne rende impur l'objet du sacrifice ou le sacrifiant. Pour reprendre notre précédent exemple, il est nécessaire que le sang ou l'âme contenue dans le bélier sacrifié pour favoriser la récolte plaise à la divinité ayant le pouvoir de faire croître les champs. Si le sang, la chair et les restes de la victime déplaisent à d'autres divinités, la cérémonie devra en outre respecter une séquence rituelle méticuleuse, empêchant la confusion. Par exemple, si c'est l'âme de la bête que la divinité ciblée apprécie, mais que celle-ci abhorre le sang, on préférera un étouffement afin de le libérer de la manière la plus appropriée. Ainsi, croyances, rites et méthodes de mise à mort correspondent et sont liées dans le sens donné à la cérémonie par les participants. Il en va de même pour le sacrifice guerrier. Le double risque encouru sur le champ de bataille, donner la mort de manière impie et la recevoir sans les préparations d'usage, peut être ainsi contenu par des rites. Donc, je voulais faire un peu plus de sources, mais je vais passer un peu plus rapidement. Donc, sur le moi sacrifié, on trouve de nombreux exemples, évidemment, comme le Valhalla des Scandinaves, qui est le paradis propre aux guerriers, l'islam évidemment, mais aussi le Shinto dont on discutait, qui a un paradis aussi exclusivement réservé aux guerriers. Donc il n'y a pas qu'une question disciplinaire, c'est aussi un arrière-fond religieux qui est derrière. Et voilà, le sanctuaire de Yakusuni a été construit dans cette optique-là, c'est-à-dire de récompenser et de commémorer les âmes des guerriers tombés au combat, qui ont un statut particulier religieusement. Voilà. Donc, dans le moi sacrificateur, je ne peux pas résister à vous lire un passage du Mahabharata qui est extrêmement significatif sur la manière dont le guerrier, enfin extrêmement précis sur les rites que doit préserver le guerrier et de l'assimilation de la victime qu'on l'on tue à la victime sacrificielle. Bouillant d'une fureur intense comme un serpent royal fermé, frappé du pied, Asvataman prit 14 flèches pareilles au bâton de l'exterminateur, capable d'infliger de grandes souffrances à l'ennemi. Avec 5 de ces flèches, il trancha les pattes et la trompe de l'éléphant. Avec 3 autres, il coupa les 2 bras et la tête du roi. Avec les 6 restantes, il tua les 6 grands guerriers à chars resplendissants qui escortaient le pandir. Les 2 bras du roi tombaient à terre, grands et ronds, oints d'excellentes pattes de santal, parés de bijoux, d'or, de pierres précieuses et de diamants, se tordaient comme 2 serpents tués par Tarxia. sa tête à la face brillante comme la pleine lune, aux grands yeux rouges de colère, au nez proéminent, orné de boucles d'oreilles, resplendissait aussi sur la terre comme la lune entre deux constellations. L'habile combattant avait donc découpé l'éléphant en 6 morceaux à l'aide de 5 flèches excellentes et le roi en 4 morceaux avec 3 flèches. Il avait ainsi divisé le roi et l'éléphant en 10 portions qui étaient comme les parts d'oblation à 10 divinités. Après avoir offert au Rakshasa de copieux repas de chevaux, d'hommes et d'éléphants coupés en morceaux, Pandya s'éteignit ainsi, tel le feu cher aux ancêtres, qui a reçu les libations sur lesquelles on a versé de l'eau. Voilà.
Donc, c'est mieux que la chanson de Roland. Hein.
Voilà, donc j'avais d'autres rituels, dont un rituel spartiate précédant la bataille où les guerriers sont coiffés de la même couronne que le sacrificateur dans la religion propre à Sparte et sont accompagnés par le même air de musique pour aller.
On peut préciser la couronne, elle est comment, en
fait ? C'est une couronne de laurier, je pense. Voilà. Leurs casques sont remplacés alors par les couronnes sacrificielles typiques dont le caractère circulaire qui sert de liant fait de chaque guerrier un sacrifiant potentiel et en même temps un bénéficiaire de ce sacrifice dans lequel il fixe les yeux.
Et ça, c'est avant le combat.
Oui, c'est juste avant le combat. Et on envoie généralement, on tire au sort un soldat dans le rang et on l'envoie se faire tuer sans aucun espoir de survie par les ennemis. Ça, c'est dans un article qui s'appelle « Il faut s'allier avant la bataille » de Diana Segarra Crespo, qu'on peut trouver sur Percé facilement. Il faut s'allier avant la bataille, sur certaines pratiques sacrificielles face au danger. Je vous donnerai. Voilà, donc évidemment dans les... Voilà. Et donc, une coïncidence sur laquelle nous allons revenir, qui est dans le judaïsme mosaïque, donc avant l'exil à Babylone, les trompettes d'argent servant au sacrifice du temple sont utilisées lors de la conduite des troupes armées, et il y a une identification entre les victimes qui sont faites par les armées juives en campagne, et sur lesquelles on va revenir un petit peu plus un peu plus longtemps ensuite. Donc dans l'autre sacrifié, les pratiques non plus ne manquent pas, les plus célèbres étant les pratiques mexicaines qui sont transversales à toutes les civilisations, Olmec, Teotihuacan, Toltec et jusqu'aux Aztèques, et même aux Mayas qui sont qui sont l'air juste voisine. Les Gaulois aussi, avec l'encéphaloctomie qui a perduré jusqu'à extrêmement longtemps dans le monde celte en Irlande et en Écosse, les guerriers coupaient la tête de leur victime et allaient la porter au sanctuaire, comme on l'a retrouvé à Gournay-sur-Arondre et à des nouveaux sanctuaires qui ont été retrouvés depuis, comme Meuvres ou Ribemonde-sur-Ancre. Donc là, il y a vraiment on a des centaines de têtes qui ont été retrouvées et offertes aux dieux. Et voilà, donc Hérodote décrit un rituel équivalent chez les Scythes que je n'ai pas le temps de vous lire. Et voilà. Voilà, et enfin dans l'autre sacrificateur, les exemples aussi ne manquent pas, donc notamment... un rituel très curieux des Romains qui est la devotio, qui est on se voue soi-même aux puissances maléfiques et ectoniennes et on fait de l'autre un mauvais sacrificateur en allant se sacrifier. Une fois que la défaite est certaine, on confère une dimension religieuse, comment dire, malfaisante à l'acte. Même, c'est l'acte, ce qui est intéressant, c'est que c'est l'acte même de l'ennemi qui est visé, pas juste mon propre statut. Voilà, et d'autres rituels chez les Wahulu d'Indonésie, qui ont été étudiés par Valerio Valerie, où la chasse et la guerre sont vécues comme un affrontement entre les esprits domestiques et les esprits sauvages ou de la forêt. Donc, je voulais vous lire ça, mais j'ai pas vraiment le temps. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir comment, à partir d'un fond, d'un ordre du monde qui est décrit par la religion, on arrive à des pratiques sacrificielles et comment on peut évoluer par rapport aux mêmes sources et arriver à des sens différents. Donc, je voudrais vous décrire un petit peu plus précisément la doctrine juive du sacrifice dans la période post-exilique, celle qui va du retour de l'exil à Babylone à la destruction du temple par les Romains. Et nous suivrons pour cela l'ouvrage excellent de Christophe Batsch, « Guerre et rites de guerre dans le judaïsme du deuxième temple ». À partir de la rédaction des chroniques, David incarne ainsi le paradoxe du guerrier. Même engagé dans la plus légitime des guerres, le devoir de verser le sang sur la terre souille le guerrier. La guerre est substantiellement source d'impureté, même lorsqu'elle s'avère indispensable. Le livre des chroniques, donc, qui est une réécriture des épisodes précédents, mais dans une mentalité tout à fait différente, dit de David, « Tu ne bâtiras pas la maison de mon nom, car tu es homme de guerre et tu as répandu le sang. » Cette conception sera conservée pendant toute l'époque du Second Temple. Mais ce n'est pas seulement le sang versé qui rend la guerre impure pour les Juifs. Dans le modèle mythique du camp de guerre au désert, Adonai est au milieu du camp. Le sacré, on le sait, souille ce qui n'est pas en état rituel d'être à son contact. Par conséquent, seule une parfaite pureté rend possible la présence de Yahvé à la tête de ses troupes. Les combattants d'Israël se trouvent ainsi installés entre deux sources potentielles de souillure. L'impureté majeure des morts et des cadavres du champ de bataille, d'un côté, la sainteté de leur camp militaire, de l'autre. Ceci impose une contrainte forte aux guerriers. Le degré de pureté implicitement exigé des guerriers dans le camp est comparable à celui requis dans l'un des espaces intérieurs du temple. La même racine désigne en hébreu l'action biblique d'égorger un ennemi au combat et d'égorger l'animal offert en sacrifice. C'est la racine Shin Chet Tav. Littéralement, trancher la gorge. Le judaïsme ancien a manifesté l'intérêt majeur pour le sang qui s'écoule de ces gorges tranchées, sang dans lequel résidait le nefesh, l'âme, c'est-à-dire le principe même de la vie. Aussi, si la séparation entre le sacrifice korban et la mise à mort de l'ennemi est toujours strictement maintenue, les deux activités possèdent de manière significative un rite commun, celui de faire sonner les trompettes d'argent du temple. Mais malgré la distinction nette entre sang des animaux purs, propres au sacrifice, et le sang impur, qui n'est pas propre au sacrifice des animaux et des hommes, le rite de la sonnerie de trompette établit une équivalence entre la fumée des sacrifices et le son des trompettes. L'une et l'autre sont le résultat d'une activité spécifiquement sacerdotale, établissant une médiation entre les hommes ici-bas et la divinité. Compte tenu de l'impossibilité de sacrifier en dehors du temple, ces sonneries constituent un substitut à l'offrande des sacrifices. Les sonneries sont aux armées juives du Second Temple, ce que les égorgements sacrificiels sont aux armées hellénistiques et romaines, en même temps qu'elles rassemblent les guerriers avant le choc. Dans un autre sens, les sonneries du premier Tishri font mémoire de la guerre lors des sacrifices. C'est un rite qui est observé au temple. Ici, la guerre est le modèle du sacrifice. Cette pratique rituelle s'accompagne d'une symbolique insistant particulièrement sur l'offrande du corps de l'adversaire à l'Éternel. Une façon classique d'exprimer la violence de la guerre dans la Bible hébraïque consistait à décrire que Yahvé dévorait la chair, la graisse et le sang des blessés et des morts. Cela correspondait à la représentation de mécanismes vitaux dans le judaïsme ancien. Le sang est le siège du principe vital, la graisse est le siège de la fécondité et de la reproduction, donc aussi de la puissance et de la force. Ainsi, dans le texte mosaïque, l'assimilation de l'ennemi tombé au combat et celle des sacrifices est indéniable. Le soldat hébreu accomplit un acte commandé par Dieu et tend à voir sa victime comme une oblation à l'Éternel. Mais les représentations ont déjà commencé à évoluer après le retour de l'exil babylonien. On doit souligner l'évolution opérée par le judaïsme, nous dit Christophe Batsch, par rapport à son modèle biblique. Dans celui-ci, le sang apparaissait comme un élément appartenant en commun à la guerre et au sacrifice en tant que part de la divinité. Pour le judaïsme du Second Temple, la représentation qui s'impose installe le sang de la guerre et le sang des sacrifices dans un rapport d'exclusion mutuelle, un rapport d'opposition au sein du système de pureté. Les deux sangs se retrouvent aux deux pôles du système. Entrer en contact de l'un comme de l'autre exige ensuite de traverser un rite de purification des guerriers après la bataille. Dans cette perspective, le judaïsme a codifié un rite situé aux limites du sacrifice de la guerre et portant à son paroxysme la violence commune aux deux institutions. C'est le Cherem, qui est traduit en français généralement par anathème, mais qui est maintenant souvent laissé dans le mot original, puisqu'il y a, c'est une traduction qui est un petit peu imprécise, que nous avons, dont l'archétype est la capture et la destruction de Jéricho par Josué. Sa fonction est de parvenir à l'extermination de l'idolâtrie et à la purification de ceux ayant été en contact avec les divinités étrangères. C'est un principe et un mécanisme d'exclusion trouvant son origine dans l'activité martiale, notamment la destruction des Amalécites ordonnée par Yahvé à Saoul dans le livre de Samuel. Ce qui est voué au Cherem doit être détruit pour être rendu à Dieu sans contrepartie. Et là, l'ensemble des richesses prises sont consacrées au temple, soit, et tout le reste est détruit, il n'y a aucune part qui est accaparée par les soldats. Mais dans le livre de Daniel, cependant, un étonnant renversement de perspective se produit. Le Cherem n'a plus vocation à frapper les ennemis de Yahvé, mais au contraire, ses plus chers adorateurs. Les victimes d'Antiochos, le roi grec de Syrie, sont, parmi les Juifs, ceux précisément demeurés fidèles à l'Alliance. On aurait alors l'exemple unique d'un retournement prophétique du Cherem, puisque celui-ci n'affecterait plus les apostats, mais les fidèles à l'Alliance. Nous sommes passés ici d'une conception où l'ennemi était sacrifié à une nouvelle vision dans laquelle il s'est mué en sacrificateur. Oui, il me reste. Voilà, donc c'est sur la. Je voulais simplement conclure sur en récapitulant, mais aussi en proposant une hypothèse qui est une simple hypothèse, mais que je voudrais quand même dérouler, qui est celle de l'impact de l'éruption de la guerre sur les religions et sur l'utilisation du sacrifice, parce que on a de bonnes raisons de penser que la guerre est apparue avec la sédentarisation, qu'elle est absente chez les peuples précédents, et que les peuples donc, qui ont connu la guerre ont... j'essaye de résumer au plus simple. Les peuples maintenant engagés dans la guerre ont dû faire face religieusement et trouver des conceptions nouvelles pour pouvoir combattre, et que on observe un essor du sacrifice dans les religions post-sédentarisation après la révolution néolithique. Et voilà, donc l'idée serait d'étudier l'impact de la guerre sur les religions en essayant de comparer systématiquement les sources archéologiques, les auteurs anciens qui ont témoigné, les derniers témoignages qu'on a pu recueillir sur les religions de bandes paléolithiques. Voilà. Et je conclue extrêmement vite, mais voilà. Donc bon, je pense qu'on est voilà.
On vous a compris. Merci. Bien entendu, dans le texte définitif. Ne manquez pas d'inclure toutes les références aux différents cas, oui, si vous voulez, parce que ça, c'est tout à fait important. Alors, en fait, votre communication met clairement en évidence que la guerre ne peut pas aller sans développement religieux, parce que ce n'est pas un acte naturel, et que, par conséquent, il faut l'entourer de rites. Et par voie de conséquence, et c'est votre conclusion qui est tout à fait intéressante, juste et mérite d'être développée, et bien les religions subissent des conséquences dans leur propre développement. Donc il y a une interaction. Alors, lorsque j'ai écrit et développé et assuré ailleurs que les deux domaines sont étrangers l'un à l'autre, ça ne veut évidemment pas dire qu'ils ne se rejoignent pas. La question que l'on peut se... Il y a deux que votre exposé pose. D'abord, est-ce que le sacrifice est le point de jonction, si vous voulez, entre le religieux et le guerrier, le seul, ça m'étonnerait, le plus important, c'est plausible, un parmi d'autres, etc. C'est un... Bon, pouvez-vous vous poser cette question? Et la deuxième question, c'est dans quelle mesure les guerriers ont-ils intégré, si vous voulez, dans leurs convictions, ça c'est plausible, dans leur psychisme, qu'est-ce que ça donne? Et là, ça rejoint la question de monsieur, ou l'interrogation de monsieur Sciari tout à l'heure, qu'en est-il du fort intérieur? Alors là, j'ai des doutes sur l'état de la documentation, mais bon, cela dit, bon, votre démonstration me paraît tout à fait convaincante et aurait été très bien dans le volume sur guerre et religion. Enfin, d'ailleurs, bon, c'est à méditer. Voilà, je donne.
Vous avez un petit peu oublié la guerre dans les spécialistes de la religion.
Oui, oui, enfin bon, ils étaient, oui, alors que là, bon. Bon, ben, qui voudrait. Donnons 5 minutes parce que.
Oui, monsieur Sciari, peut-être.
Monsieur Sciari, c'est comme ça, votre nom est enregistré.
Appuyez sur le bouton. Ah oui, c'est vrai. C'est-à-dire que le.
Je crois que le sujet peut intégrer ça de façon très, très souple. Dans le cas des soldats japonais dans la guerre d'Asie-Pacifique, je ne parle pas des kamikazes, hein. On voit très bien dans leurs lettres et puis dans leurs journaux que d'une part, ils sont capables de se battre au nom d'une théologie d'État, qui est le shintoïsme d'État, au nom de l'empereur. Mais d'autre part, parfaitement capables de professer leur foi dans le christianisme parce qu'il n'y a pas d'incompatibilité. Donc la religion à laquelle on appartient n'est pas nécessairement la religion que l'on sert en termes militaires.
Là, il y a une solution qui est extrêmement simple. Le shintoïsme est une invention purement. Donc, il y a l'idéologie d'un côté et la religion de l'autre, et c'est la même chose, le nationalisme et le christianisme, c'est très compatible, enfin, c'est très compatible en tout cas psychiquement.
Mais pas nécessairement au niveau de la raison d'État, parce qu'une religion comme le bouddhisme, une religion, je veux dire, ces gens-là étaient aussi bouddhistes, ou le christianisme, ont été persécutés par l'appareil. Mais je crois qu'il y a cette souplesse de sédimentation psychique du sujet qui entre en considération.
Oui, oui, je suis assez d'accord. Mais ouais. Bah, surtout, notre vision de la religion est extrêmement exclusive, mais les Chinois, les Japonais sont beaucoup plus...
Leur religion, voilà. C'est ça le problème. C'est pas des pays, c'est pas des peuples religieux.
Ce qui m'intéresse beaucoup de votre exposé, c'est passionnant, c'est le statut de l'objet du sacrifice, à savoir le sacré. Le sacré. Alors, je fais l'hypothèse que...
C'est curé à pied, je ne comprends pas. Hein. Oui. Je crois qu'il faut éteindre...
Ça y est, si je maintiens. Le sacré, qui est quand même, comme vous le disiez, l'objet... Enfin, et le sacré pour la guerre ou les groupes militaires, je crois que ça a à voir avec le corps maternel. On parle de la mère patrie, mais il y a quelque chose qui est absolument sacré. C'est immaculé que doit rester la mère, la femme mère, pas la femme amante, mais la femme mère. Et je crois que c'est la source, en tout cas chez les guerriers, dans les guerres, on le sent très bien, ça. Le sacré, c'est la mère. On ne doit pas toucher au corps sacré de la patrie. Et je crois que c'est absolument fondamental. Il n'y a pas de sacrifice sans sacré. Roger Caillois, parfaitement... beaucoup illustré ça. Ouais. Voilà.
Oui,
très vite, pour le sacrifice propitiatoire que font les chefs d'armée avant de partir, souvent, quelquefois, ils doivent sacrifier quelqu'un de leur propre famille. Parce que Abraham, c'est pour Isaac, ça, c'est pas pour partir d'armée, mais la fille de Jephthé, par exemple. il promet qu'il va se battre contre les ammonites, et avant de partir en guerre, il dit ben, « Je tuerai les premières choses vivantes qui sortiront de ma maison. Manque de peau, c'est sa fille. » Et après, Idoménée, c'est la même chose. Mmh. Et ensuite, on retrouve chez Échille, dans la version d'Agamemnon, pour tuer sa fille Iphigénie, la même version reprise par Sophocle dans Électre, et les deux versions de l'Euripide, Iphigénie en Tauride, qui a fait d'abord chez les morts, puis après en Aulide, où pour faire accepter à la population grecque qui était évoluée sur le visage de la fille, il est remplacé par une biche au dernier moment. Enfin, c'est le prix du sacrifice. On trouve tout ça, c'est bizarre, dans des religions différentes, et après on va retrouver des sacrifiés consentants qui sont le juste parfait de Platon, qui sait, il est accusé à tort, mais il ne se défend pas. Il sait que sa dignité, c'est de rien dire. Et bien, il y a le serviteur souffrant, dans la Bible, je crois que c'est dans le livre d'Isaïe, je ne sais plus, qui également ne se défend pas, et c'est qui est sacrifié pour la rédemption des autres. C'est tout ça, dans tous nos mythes, on retrouve le même thème. Ça va être repris par Racine et Goethe, bien entendu.
Oui, mais est-ce que ce n'est pas le même Racine, justement, tous ces mythes se retrouvent parce qu'on se retrouve autour de la Méditerranée. Et ça réactualise au fur et à mesure, etc. Moi, je voudrais juste dire un mot sur les rites avant, mais il y a les rites après aussi. Parce qu'en fin de compte, verser le sang, il y a des rites de purification aussi au retour. Parce que c'est essentiel.
Du sacrifice, il y a avant,
voilà.
Et après.
Oui, mais avant,
enfin,
après.
Hubert et Moss, on dit, je crois, des choses définitives sur cette question-là. Enfin. Bon, Monsieur Sciarri, on ne voudra pas, si je ne lui redonne pas la parole, il pourra le dire en particulier tout à l'heure, il faut absolument donner la parole à Laure Bardiès, qui, elle, est maître de conférence en sociologie à l'UNS de Cachan, détaché, alors c'est prêt, je lis, aux écoles de Saint-Cyr, Coëtquidan. Bon, en fait, vous êtes à Saint-Cyr, Coëtquidan pour le moment, en tout cas, et pour un certain temps.
J'exerce.
Voilà, vous exercez à Coëtquidan. Donc, je vous donne tout de suite la parole.
Oui, alors, juste avant d'entamer ma communication, je voudrais juste demander, parce que ça fait un petit moment en vous écoutant, que je pense à la célèbre phrase de Patton, qui est complètement décalé, en fait, hein, qui vient d'une logique qui est radicalement différente, qui est assez fleurie. Vous la connaissez sans doute. L'objet de la guerre n'est pas de mourir pour son pays, mais de faire en sorte que le connard d'en face meure pour le sien. Et là, on est véritablement dans une logique à l'opposé de tout ce dont vous venez de parler. Donc, c'était juste une petite parenthèse, mais je pensais à ça depuis tout à l'heure. Donc, moi, je vais essayer de vous parler de la question du moral. J'ai longuement hésité pour savoir comment aborder le sujet, qui est un sujet extrêmement vaste, et j'ai finalement opté pour l'intitulé suivant, donc le moral, un objet abandonné par les études ou recherches militaires françaises, puisqu'il m'avait semblé que un des objectifs majeurs de ces différentes manifestations scientifiques organisées par Jean Bachelard était d'attirer l'attention sur un objet qui avait été délaissé par les sciences humaines et sociales françaises, la guerre. La guerre et les armées de façon un petit peu plus large. Et que j'ai justement mené un travail doctoral qui date un tout petit peu maintenant quand même, visant à faire un bilan, une analyse et un bilan de l'investissement des sciences humaines et sociales en France autour de ce que j'appelais l'objet militaire ou la chose militaire au sens large. C'est-à-dire qu'en gros, ça prenait en compte l'ensemble des sciences humaines et sociales et l'intérêt porté à la fois aux armées, à la guerre et aux relations État-armée-société ou aux relations entre États. Donc, c'est assez large. J'ai inclus à cette étude les principales productions militaires, donc elles sont pas assez de côté, et parfois certaines productions, à partir de deux catégories, ce sont à la fois des productions militaires, et en même temps, ce sont des productions qui relèvent, de façon plus ou moins nette, des sciences humaines et sociales. Bon. Voilà. Donc, je précise immédiatement, je vais très vite sur ces aspects-là, je précise immédiatement qu'il n'était pas question d'analyser l'ensemble de la production au sens objectif du terme, hein, même si la production française sur les sujets militaires est beaucoup moins importante que d'autres productions américaines par exemple. voilà, l'objet aurait été beaucoup trop important si j'avais choisi une définition purement objective du champ. Donc j'ai procédé par un système de citations, et j'ai inclus dans le corpus les titres d'ouvrages ou d'articles les plus souvent cités à partir d'un certain nombre de personnalités sources de référence. Bon, voilà. Si vous avez des questions sur la méthodologie, j'y répondrai volontiers, mais là je passe pour ne pas perdre le fil du propos. Et donc, il m'a semblé intéressant d'appréhender la question du moral du point de vue de l'investissement des spécialistes en sciences humaines et sociales en France et l'investissement des écrivains militaires sur le sujet, en sachant que j'ai commencé mon étude au début du XIXe siècle, au moment de la naissance, de l'émergence des sciences humaines et sociales, et qu'elle se terminait à la fin de la guerre froide. L'ensemble a permis de dégager, du point de vue des thèmes abordés, de la façon de concevoir et de problématiser des objets, du point de vue des orientations théoriques, des choix méthodologiques, donc de dégager des grandes tendances dans la production française, que ce soit, encore une fois, production scientifique ou la production militaire, et de voir, en fonction des disciplines, en fonction des périodes, comment tout ça s'organisait. Quand on s'intéresse justement à la question du moral, une chose est frappante, sont très 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 nettes, c'est que après une période où le moral a fait l'objet d'un intérêt collectif extrêmement fort et qui se situe, pour schématiser, entre 1870, c'est-à-dire la période qui suit la défaite de 1870, et après la fin des années 1920, donc après cette période où on a intensément investi l'objet moral, la production française a délaissé le sujet de manière assez nette. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire que l'objet n'existait pas avant. La question du moral dans le combat était abordée par exemple au XVIIIe siècle à travers la réflexion sur les passions dans la guerre. Donc ce n'est pas un objet nouveau, hein, l'objet n'apparaît pas à ce moment-là. Bien sûr, il a continué à être l'objet de réflexion et de recherche de la part de certains individus après les années 1920, mais l'investissement collectif, lui, autour de ce sujet, est en très net déclin. Pourquoi une période d'intense intérêt pour le sujet, et puis ensuite manière de se détourner d'un objet qui avait été si valorisé. Alors, précision quand même, ça ne veut pas dire qu'on ne s'intéresse pas à la question du rapport entre le monde mental et la guerre après les années 1920. Mais en gros, dans la production, il y a une période de creux. Pendant l'entre-deux-guerres et pendant la Seconde Guerre mondiale, la production reprend de façon assez nette après 1945, mais après 1945, la question des rapports entre guerre et monde mental se focalise sur les thèmes de la guerre idéologique, de la guerre subversive. Pendant la période des guerres de décolonisation et la guerre froide, on va s'intéresser à la conquête psychologique des populations, à l'importance de l'idéologie, mais plus au moral tel qu'on l'avait appréhendé auparavant. Donc bien sûr, le moral des combattants peut avoir une dimension idéologique, mais après 1945, on s'intéresse moins aux combattants finalement qu'aux tiers, c'est-à-dire aux populations civiles, aux opinions, dont on estime que la conquête psychologique et morale est un moyen de la victoire en politique ou militaire. Bon. Alors, c'est caricatural, hein, je vais très vite, je schématise, j'insiste, hein, ça ne veut pas dire que plus personne n'a jamais travaillé sur le sujet, mais que du point de vue collectif, l'évolution est très nette. Il est d'ailleurs assez frappant de constater aujourd'hui, j'évolue dans l'univers militaire, donc c'est quelque chose que je peux constater au quotidien, de constater aujourd'hui que quand on évoque le thème du moral des combattants, le nom de Charles-Adam Dupic est assez souvent le seul cité, quand il l'est, c'est pas certain. Et l'expérience guerrière et le monde mental sont depuis une dizaine d'années à peu près appréhendés presque exclusivement, à la fois dans la production scientifique et dans l'espace médiatique, sous l'angle par le biais des thèmes des blessures psychiques, des traumatismes psychologiques, des suicides de soldats, sont quand même des thèmes qui sont extrêmement présents aujourd'hui. Donc les interrogations sur les faiblesses et forces mentales des hommes dans un contexte guerrier, sur leurs manifestations, leur origine, leur rôle dans le combat, sur les moyens d'atténuer les unes et d'augmenter les autres, ont été supplantées, de manière assez nette aujourd'hui, par une attention nécessaire, mais peut-être un peu trop exclusive, à ce dont les soldats souffrent. Ils sont assez souvent dépeints du point de vue mental en victimes plutôt qu'en acteurs de la guerre. Bon, il y a quelques exceptions. Michel Goya, le colonel Michel Goya, parlera cet après-midi et demain. Mais il se repère, hein, Michel Goya, justement, par son intérêt et ses écrits sur, sur la psychologie du combat et la question du moral. On peut d'ailleurs se demander si la valorisation du niveau de recherche et de réflexion stratégique, considéré plus ou moins consciemment comme supérieur, ne nuit pas finalement à l'appréhension d'un thème, le moral des combattants, qui est, lui, assimilé à la dimension tactique de la guerre. Donc là, la façon dont on hiérarchise la valeur des niveaux, hein, peut-être que le thème du moral est aussi sacrifié parce qu'il appartient au niveau tactique, hein, au moins qu'on conçoit les choses comme ça, et pas au niveau stratégique. Ce serait le niveau roi. Alors, au bout du compte, le flou entourant la définition de l'objet est, au bout du compte, assez révélateur du peu d'investissement des spécialistes français et des militaires dans son étude. Qu'est-ce qu'on entend exactement par morale ? Une habitude consiste par exemple à désigner par ce mot l'état d'esprit des armées à un moment ou à un autre, le degré de satisfaction professionnelle et sociale de ses membres. On fait régulièrement dans les armées françaises des rapports sur morale. Or, entre satisfaction individuelle et collective et le mot morale dans son sens plein, il y a quand même une différence. Et le plus souvent, hein, le mot moral devrait être compris comme une formule abrégée pour force morale, qui désigne de manière large l'ensemble des ressources mentales qui favorisent soit la résistance psychologique aux conditions de la guerre, aux conditions guerrières, un aspect défensif, soit la combativité des individus, plutôt l'aspect offensif. Donc il y a deux dimensions dans le moral, la capacité à résister et la capacité à combattre. Bon, par extension, on parle aussi de force morale pour désigner leur étude. Alors il y a peut-être une explication, hein, au flou, à l'ambiguïté des termes. Le fait qu'aux États-Unis, les travaux scientifiques sur le moral et la cohésion des groupes, notamment des groupes primaires, la dynamique des petits groupes, se développe dans les années 1920-1930, d'abord dans un cadre industriel. C'est d'abord la psychologie industrielle qui s'intéresse à ces questions et sont ensuite réinvestis et puis développés dans le contexte de l'effort de guerre entre 40 et 45. Peut expliquer pourquoi on désigne finalement par le même mot, morale ou cohésion, des réalités qui ont des liens, soit dans un contexte civil ou dans un contexte militaire, mais qui ont aussi des différences selon qu'on parle d'organisation industrielle ou de guerre. De manière générale, aujourd'hui, hein, les travaux scientifiques américains sur le moral, qui ont été largement diffusés, constituent les références principales et incontournables des chercheurs. Finalement, c'est donc au moment où la production américaine prend son envol sur ce thème, des années 1920-1930, que la production française, elle, qui avait été très dynamique de 1870 à la fin de la Première Guerre mondiale, sur certains points même en avance, je vais essayer de vous le montrer, en avance sur ce que les Américains découvriront par la suite, que cette production donc s'est effondrée. Alors il y aurait sans doute matière à réfléchir longuement au prolongement philosophique, historique et politique de cet effondrement du moral en France suite à la Grande Guerre. Je ne m'aventurerai pas hein, sur ce terrain-là. Je voudrais, pour le moment, simplement tenter de montrer l'influence du contexte de réception de l'ouvrage fondateur de Charles-Alban Dupic, Les études sur le combat, combat antique et combat moderne, sur l'évolution de la production française. C'est-à-dire que j'ai une hypothèse, qui va unique, hein, mais je voudrais là vous développer, qui est que, en fait, le signal de départ de l'intérêt pour la question des forces morales en France, c'est non seulement la défaite de 1870, mais aussi les écrits de Charles-Ardan Dupic. Je vais développer un peu plus. Hein, Charles-Ardan Dupic, je vais en parler. Oui, Ardan Dupic. Donc, c'est parti des classiques hein, pour les militaires français. Voilà. Il fait partie des classiques pour les militaires français. Donc, je vais revenir hein, sur qui est Charles Dupuy, qu'est-ce qu'il a écrit. Mais donc, il publie un ouvrage fondateur en 1880 pour l'édition civile, mais il commence à le publier avant, dans des bulletins militaires, qui va être abondamment lu par les officiers français dans un contexte particulier, et que c'est ce contexte et cette lecture qui vont finir par tordre les propos, l'analyse que va faire fondamentale que va faire Charles Ardan Dupic de la question du moral, va conduire aux excès doctrinaux d'avant la Première Guerre mondiale, aux errements de la première phase de la Grande Guerre, et, c'est une de mes hypothèses, de finalement, au bout du compte, participer à discréditer en France, avec le traumatisme de la Grande Guerre, un thème qui est pourtant un thème fondamental. Bon, voilà quelle est la... Je vais essayer de vous montrer. Alors justement, parlons un peu de Charles Ardan Dupuy. Il n'est pas connu de tous. Charles Ardan Dupuy est un Saint-Cyrien, un officier, qui a connu l'action à plusieurs reprises. Hein, donc c'est quelqu'un qui est très expérimenté du point de vue de la guerre. Il a fait la guerre en Crimée, il a participé au maintien de la paix en Syrie. Il a réprimé des rébellions en Algérie avant de combattre l'armée prussienne à la tête du 10e régiment d'infanterie de ligne. Il laissera sa vie donc en 1870 dans la guerre contre les Prussiens. Comme ses contemporains officiers, il n'est pas passé par l'école de guerre qui sera créée après la défaite. Il n'est pas complètement autodidacte. Mais sa culture doit quand même beaucoup à ses intérêts personnels pour l'histoire, l'étendue de ses lectures et puis à sa réflexion. Alors son ouvrage fondamental est donc Les études sur le combat, combat antique et combat moderne. C'est un livre qui est relativement peu lu aujourd'hui mais qui a été donc très célèbre à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, notamment à cause de la place que vont lui faire à cette époque les instructeurs de l'école de guerre et donc de la manière dont il va être réinjecté dans la doctrine appliquée du côté français dans la phase initiale de la Première Guerre mondiale. C'est un livre qui est aussi globalement peu connu des sociologues français. Il a été commenté du point de vue de ses aspects tactiques, historiques, historiographiques, psychologique, mais on en a rarement vu, par mes connaissances de son existence, on en a rarement vu son aspect sociologique, qui est pourtant absolument fondamental. Et donc je vais essayer là, de vous présenter brièvement l'ouvrage en insistant sur cette dimension sociologique. Alors, l'objet que se donne Ardan Dupuy est très clairement exprimé d'entrée de jeu. Je le cite, « Le combat est le but ultime des armées et l'homme est l'instrument premier de ce combat. Il ne peut être rien de sagement ordonné dans une armée, constitution, organisation, discipline, tactique, toutes choses qui se tiennent comme les doigts d'une main, sans la connaissance exacte de l'instrument premier, de l'homme, de son état moral en cet instant définitif qu'est le combat. » Là, l'objet est extrêmement clair. C'est une anthropologie hein, de l'homme au combat, qui ne s'exprime pas de cette manière-là, mais c'est bien ça. Donc, une anthropologie de l'homme au combat, mais qui est attentive à la dimension historique du combat. C'est-à-dire que l'homme est pensé comme restant relativement constant dans ses relations à l'activité guerrière, dans ses réactions psychologiques et morales, mais le combat, les conditions du combat varient en fonction de tout un ensemble de paramètres historiques. Donc il y a une double dimension dans l'analyse d'Ardan Dupuy, une dimension anthropologique, c'est de relever des constantes, et puis une dimension historique. Si on passe à côté de la dimension historique, on lui fait dire aussi pas mal de bêtises. Alors, je résume très brièvement la thèse, les thèses du livre. Il faut se départir du romantisme habituel quand on traite la question de l'homme au combat. C'est véritablement un ouvrage anti-romantique. L'homme au combat n'a rien d'un être calme, obéissant. Il ne ressemble pas aux héros guerriers tels qu'ils sont dépeints dans les mythes, dans les poèmes, dans la littérature de manière générale. Au contraire, il s'agit, je cite, d'un être nerveux, impressionnable, ému, troublé, distrait, surexcité, mobile, s'échappant à lui-même. La peur, notamment, il insistera beaucoup sur la question de la peur, l'emprise de l'instinct de conservation sont des défaillances régulières qui est absurde de passer sous silence. Il parle du point de vue instrumental de l'officier. Ce n'est pas la négation, mais, je cite encore, la détermination de cet instant où l'homme perd le raisonnement pour devenir instinctif qui fait la science du combat. Si l'homme se laisse souvent dominer par ses émotions, qui amenuisent, voire anéantissent ses capacités combattantes, le salut vient cependant du fait que la guerre est une activité collective. Et c'est justement dans la dimension sociale du combat qu'il faut trouver les moyens de remédier aux faiblesses individuelle et relativement constante des hommes. Donc, le postulat d'Ardan Dupic est que l'homme est faible, même s'il y a quelques... Il distingue, tous les hommes ne sont pas identiques, mais de manière générale, les cas rencontrés le plus souvent sont ceux d'individus qui ont peur, qui sont pris de panique, qui sont figés, bref, qui ne se conduisent pas du tout en héros combattants. Et donc c'est à la dimension sociale dans la dimension sociale de la guerre qu'on peut trouver les moyens de remédier à ces faiblesses. Alors la guerre telle que je résume l'idée, la guerre telle qu'elle était pratiquée dans l'Antiquité mettait aux prises des armées relativement peu nombreuses, toujours relatif mais c'est relativement peu nombreuses, dans un espace géographique restreint. Ce sont d'abord la force et le tempérament individuel des combattants qui font la valeur des armées et la différence. Mais peu à peu, la discipline et la tactique, et l'art tactique, se développent. La discipline vise à assurer le groupe de la fiabilité de ses membres, et en parallèle, une solidarité verticale et horizontale s'institutionnalise progressivement dans les armées, à la fois, selon Ardan Dupic, cause et conséquence d'un progrès moral et intellectuel. Je cite, « Le raisonnement a fait comprendre la force des efforts savamment concertés. La discipline les a rendus possibles. » Cette discipline n'est pas suffisante malgré tout. Il faut, pour que les armées soient efficaces, qu'une étroite surveillance de tous sur chacun permette aux hommes d'avancer ensemble. Donc il y a deux aspects, il y a un aspect disciplinaire, un aspect d'organisation tactique, et puis il y a la question de la solidarité, et cette solidarité, elle doit avoir pour sanction la surveillance mutuelle. Autrement dit, le contrôle social des chefs, via la discipline, mais aussi de chacun sur tous, est fondamental. Et Ardan Dupic dit même, alors il n'utilise pas le mot contrôle social, mais c'est bien l'idée, il dit même que le contrôle social doit être compris par tous les soldats comme un devoir et un devoir de salut commun. Alors, ce contrôle passe par des relations personnelles, individualisées entre les hommes, par le développement de la confiance et la fraternité, sentiments qui doivent rendre la peur d'être considérée comme un traître par la communauté combattante, plus importante que la peur de mourir. Ça installe une forme de concurrence des craintes. Et au bout du compte, Charles Ardan Dupic en tire la conclusion que le facteur moral, plus que le nombre ou la force matérielle, est un facteur décisif au combat, et même le facteur décisif au combat. Donc, c'est la solidarité qui fait les combattants, et le facteur moral, c'est-à-dire les capacités morales que crée cette solidarité, et le facteur décisif au combat. Bon, j'avais plein de citations, mais je suis obligée de passer très vite. Les conditions modernes de la guerre modifient un petit peu cette situation, puisqu'à la différence du combat antique, le combat moderne se déroule à distance, sur des espaces qui sont beaucoup plus grands, au sein desquels les hommes éparpillés échappent à la surveillance de leur chef et à celle de leurs camarades. Aucune qualité physique ou morale des combattants n'est plus gage de survie. La phrase est célèbre, mais je ne peux pas m'empêcher de la citer. « Je n'ai plus affaire aux hommes, je ne les crains pas, mais à la fatalité de la fonte et du plomb. » Et alors que le soutien des autres ne garantit plus rien aux combattants, Charles Ardan-Dupic en tire la conclusion que la solidarité n'en joue qu'un rôle encore plus déterminant. Aujourd'hui, le combat exige une cohésion morale, une solidarité plus resserrée qu'en aucun autre temps. Tout simplement pour une raison simple, qui est que si la solidarité qui est à la source de la puissance morale ne trouve plus sa sanction dans la capacité à se surveiller mutuellement, il faut faire en sorte de renforcer au sein de chaque homme le sentiment de la solidarité sans qu'il soit nécessairement sanctionné par la discipline ou par la surveillance des autres combattants. Autrement dit, il faut faire en sorte que chaque combattant intériorise la contrainte morale et qu'il n'ait plus besoin d'être autant surveillé qu'avant pour se conduire toutefois de la façon dont on attend de lui. Alors si je résume en termes sociologiques, ça signifie qu'il faut substituer à un contrôle social externe, une forme de contrôle social interne qui s'actualise dans la contrainte morale. Donc à la surveillance extérieure, qui existe toujours mais qui est amoindrie, il faut superposer une contrainte morale beaucoup plus puissante qu'avant, qui doit être constituée dès le temps de paix et se prolonger dans la guerre. Bon, là, pour ceux qui sont un peu sociologues, ça me rappelle normalement très fort Émile Durkheim. C'est-à-dire qu'il analyse, Ardan-Dupic, à sa manière, analyse la différence entre un contrôle social externe et un contrôle social interne. Il comprend bien aussi le rapport du contrôle social interne avec le développement de l'autonomie individuelle. Ce n'est pas dit en termes strictement durkheimiens, mais l'idée est bien là. Alors, je suis vraiment obligée de passer très très vite, mais donc ces idées dont on n'a pas toujours vu, j'insiste, la dimension sociologique, sont donc absorbées par les officiers français de la génération suivante, qui auront abondamment, j'insiste, lu Charles Ardan-Dupic, et seront réinjectés dans les doctrines françaises, mais en subissant un certain nombre d'évolution. En fait, la source de la puissance morale, selon Ardan-Dupic, va être modifiée. Je me dis, la source de la puissance morale, c'est la solidarité, c'est l'esprit de corps, alors qu'il se décline en cohésion quand on parle des petits groupes. Mais pour Ardan-Dupic, ce qui fait le combattant, ce qui façonne le combattant dans son aptitude à supporter la guerre et à être combatif, c'est la solidarité. C'est la dimension sociale de l'activité. Donc ça va complètement être laissé de côté par les interprètes d'Ardan-Dupic, qui seront pour la plupart des officiers. Et peu à peu, dans les écrits militaires, on va voir se dessiner l'idée que la source des forces morales, c'est soit la volonté, ce sera par exemple particulièrement net chez Foch. Bon, c'est le moment où Nietzsche est aussi beaucoup lu et réinterprété, et donc on va beaucoup se focaliser sur la volonté. Donc la volonté de vaincre va devenir, pour certains, la source fondamentale de la puissance morale, alors que les mêmes se réfèrent à Ardan-Dupic. Pour d'autres, l'origine de la force morale, ça va être le peuple, c'est-à-dire les vertus, qualité morale intrinsèque du peuple ou de la race. Ah oui, parfois, ça sera même un peu tout de façon mélangée. Mais donc, au bout du compte... Pardon ? Alors, oui, justement. de toute façon, tout en se référant à Ardan-Dupic, tout en le prenant comme référence... l'analyse va être déviée, et tout ça va finir par déboucher sur une foi hyper idéaliste dans l'élan, dans les vertus souveraines de l'offensive, foi qui sera tragiquement confrontée à la constatation que le feutu. Et justement, cette foi semble résulter sur le plan intellectuel d'une triple influence. Elle a d'abord, cette foi, une dimension mystique, qui n'est sans doute pas étrangère aux modifications du recrutement social des officiers après la défaite de 1870. Donc là, des auteurs comme Raoul Girardet ou William Serment hein, ont montré comment, après 1870, les héritiers de l'ancienne aristocratie font un retour en force dans le corps des officiers français, et avec eux, donc un certain nombre d'idées politiques et religieuses qui vont imprégner la culture des officiers à partir de ce moment-là. En parallèle, et bien que ça paraisse paradoxal, le corps des officiers est aussi imprégné par un scientisme diffus qui est plus ou moins marqué selon les auteurs, mais qui est quand même bien présent. Il cite beaucoup à l'époque, et même d'ailleurs toujours aujourd'hui, Gustave Le Bon, la psychologie des foules. L'influence du darwinisme social est aussi très forte. L'anthropogéographie de Hatzel. Il y a beaucoup de références à la biologie. Bon, il y a aussi énormément de références à des auteurs qui sont pseudo-scientifiques. Mais là, on a aussi un certain nombre d'influences qui permettent de comprendre l'attention au peuple ou à la race. Enfin, la volonté, alors c'est un élément plus large, mais la volonté de revanche sur l'Allemagne et l'exacerbation du nationalisme alimentent également l'exaltation autour des forces morales, dont l'origine, encore une fois, a été déviée. Donc ce contexte de réception et d'interprétation des études sur le combat va tordre les analyses et l'idée du primat des forces morales, telle que Ardan Dupic l'avait développée, va se muer en catastrophe. Alors évidemment, il y a d'autres facteurs hein, qui permettent de comprendre pourquoi la production française a délaissé ce thème du moral. Je ne dis pas que c'est le facteur unique, mais les excès intellectuels précédant le traumatisme de la Grande Guerre sont, à mon avis, hein, une source puissante et durable de discrédit du thème auprès des spécialistes français et des militaires. Dans ce contexte-là. Et encore aujourd'hui, je termine là-dessus parce que ça me semble être un point fondamental, la dimension psychologique de l'affrontement guerrier tel qu'Ardan Dupic l'a formulé est encore mal saisie. Même en étant revenu des excès précédents, il me semble qu'il y a quelque chose qui n'est toujours pas compris. Il est tentant, en fait, a priori, de réduire son propos à une théorie de la puissance des forces morales dans le combat, comme y invite de prime abord une réflexion qui se déroule au niveau tactique. Si on fait crédit au colonel, comme je pense qu'il faut le faire, de vue un peu plus large, c'est-à-dire d'une capacité à prendre en compte des éléments stratégiques, on peut comprendre son idée du primat des forces morales de façon un peu différente. C'est-à-dire, on peut le comprendre comme l'idée que le duel guerrier a un objectif ultime d'ordre psychologique et non matériel. Comme le général Boffre insistera, hein, par ailleurs, sur ce point, la victoire n'est rien d'autre que la capitulation morale de l'adversaire. Donc c'est un effet psychologique de démoralisation de l'armée opposée que doit viser l'action militaire, alors évidemment au moyen d'un effet matériel de destruction, d'ailleurs ce n'est pas forcément nécessaire. Et la même analyse est valable au niveau politique, le but n'est pas de détruire l'adversaire, mais de forcer sa volonté. Donc le primat donné par Ardan Dupic à la dimension du moral est peut-être un peu plus subtil que ce qu'on imagine souvent. Si on veut bien envisager donc, l'idée qui ne consiste pas à diminuer l'importance dans le combat des effets matériels de destruction, mais à ne faire de ceci qu'un moyen d'entamer la cible décisive de la cohésion morale adverse. Et il me semble que ce point-là, je l'ai rarement lu hein, dans ce qui a été écrit sur Ardan Dupic, donc c'est vraiment une dimension à côté de laquelle on passe. Mais pas plus que Clausewitz, on ne peut tenir Charles Ardan Dupic pour responsable de la façon dont il est mal interprété. Voilà, bon, je vais terminer là. Juste en conclusion, je voudrais souligner que là, j'ai focalisé sur un point qui me semble fondamental de ce que dit Ardan Dupic, mais il y a aussi beaucoup de choses dans les études, beaucoup d'autres choses dans les études sur le combat. Et ce point-là a été confirmé notamment par toutes les études psychologiques et sociologiques américaines à partir des années 20. Donc, il y a vraiment quelque chose de dommage, hein, c'est-à-dire que cette réflexion sur les forces morales et cet investissement français sur la question des forces morales débute de manière excellente avec les études sur le combat, et le contexte qui vient immédiatement après semble aboutir finalement à son abandon. Voilà. Donc on était en avance au moment de la Première Guerre mondiale sur les Américains, hein, du point de vue de l'étude des forces morales, de la cohésion des groupes, de la dynamique des groupes. Beaucoup de médecins militaires se sont intéressés à ces questions, à ces questions qui étaient partagées, hein, civils, militaires s'intéressaient au sujet. Et puis à l'issue de la Grande Guerre, tout ça a quasiment disparu, indépendamment de l'intérêt d'individus particuliers ensuite pour le sujet. Enfin, je m'arrête, ça va être trop long.
Bien, merci beaucoup, c'est tout à fait passionnant. Et nous avons un problème, le restaurateur nous attend, nous devrions partir maintenant, mais enfin, il ne se fâchera pas si nous arrivons à moins le quart. On se donne 5-10 minutes pour, non pas pour féliciter Laure, parce que je l'ai fait, mais pour lui poser des questions. On fait comme ça, et ensuite on se précipite, Monsieur Sciarri.
D'abord, je suis ravi d'avoir découvert cet auteur. Là. Et il était temps. J'ai honte, mais je n'ai pas de sabre sur moi, donc vous n'aurez pas. Vous avez dit qu'aujourd'hui, il y avait une certaine négligence de cette question du moral. Et je voulais savoir, question très naïve, si ce n'est pas le mental qui a remplacé aujourd'hui le moral. N'est-ce pas ? Le mental des troupes. Parce que, et précisément au moment. Et précisément au moment où les valeurs pour lesquelles on combat font l'objet d'un doute. C'est-à-dire que c'est le syndrome début des années 80, Rambo, complètement déprimé, qui fait appel au père du régiment, le colonel, etc. Mais qui a un mental à toute épreuve. Au même moment, les disciples acquérir un mental de fer qui se passe de toute raison idéologique, j'en passe, c'est des meilleurs. Bon, c'est juste une hypothèse, une question.
La différence, alors, il y a une différence entre mental et moral, mais ils ne sont pas non plus des objets qui n'entretiennent aucun rapport. C'est-à-dire qu'il y a, il y a quand même des éléments de jonction entre les deux dimensions. De toute façon, on parle relativement peu de morale aujourd'hui, on parle de psychologique. Hein, le terme psychologique a remplacé. On parle de force psychologique. Alors, c'est vrai que comme je suis dans l'armée, on a quand même gardé, on parle encore de morale. Ça peut être aussi souvent confondu, ça l'a été d'ailleurs, avec la morale. Alors là, on tombe dans d'autres excès. Donc, je ne sais pas si en fait on parle globalement de la même chose, mais qu'on a des termes qui sont plus scientifiques aujourd'hui que ceux du 19e siècle. Je pense que c'est globalement, c'est ça quand même. Il me semble surtout qu'on est attentif à ce dont. En tout cas. Pour les armées occidentales, à ce dont les combattants souffrent. Enfin, voilà.
Oui, mais ce que
on est attentif à ce dont ils sont victimes.
Le point important, me semble-t-il, dans ce que vous avez dit, c'est que le mental est, comment dire, sa fin propre. Être bien dans sa tête. Enfin, mais pour faire quoi ? Ça n'a pas d'importance. Et ça, c'est tout à fait intéressant. Ça déborde de très, très loin la chose militaire. Je crois que c'est un des traits de l'ère du temps, si vous voulez, d'aujourd'hui.
Il y a un passage d'Ardan Dupic qui m'a beaucoup intrigué. C'est qu'il raconte ce qui s'est passé la veille de la bataille de Wagram, lorsque Napoléon a dû envoyer sur le plateau
en partie
des
faux,
troupes alors. Qui n'étaient pas formées, qui étaient récentes. Ces bonnes troupes avaient fondu en Espagne. Il a envoyé des Saxons Bernadotte et des Italiens de McDonald's. Les Saxons se posent d'abord, et comme ils étaient en uniforme blanc, ils sont arrivés, ils ont tiré dessus. Et tout le monde s'est retrouvé en rigolade au bas du plateau, et la victoire était pour le lendemain. Et quand il a demandé à McDonald's les raisons pour lesquelles ils ont fait attaquer n'importe comment et non pas en bataillon serré, l'autre a répondu, nous sentions que ces hommes n'étaient pas cousus ensemble.
Cousus ensemble, oui.
Ils n'étaient pas cousus ensemble. Et Arnaud Epic rajoute que quand on a fait l'appel après, en dehors des morts et des blessés, il en manquait beaucoup.
20 000.
Qui avaient buté et qui étaient tombés en route. Ils étaient tombés pour ne pas aller à l'attaque. Et mon père, qui a fait Verdun, je me souviens, en 1915, à la Manne-Massige, son régiment a fusillé un type qui était tombé dans un trou exprès pour ne pas attaquer avec les autres. Il était mouchardé par un sergent, fusillé dans le matin, et tout le régiment a défilé devant pour dissuader les candidats éventuels à tomber dans les trous. Donc, je suis retenu pour ce qu'ils avaient dit, qu'ils avaient buté. Ils étaient tombés comme ça, en faisant semblant de tomber.
Oui, il y a beaucoup de descriptions. Mais quand j'en parle à mes élèves, c'est toujours très... Je ne suis sur un point, en fait, on a romantisé, on a réinvesti de façon romantique une analyse qui était fondamentalement anti-romantique. Mais même aujourd'hui, il y a trois jours, je parlais de ce que j'allais dire aujourd'hui, voilà, je me dis, bon, je veux parler un peu d'Adam Dupic, je dis, ah oui, l'apôtre des forces morales. D'accord. Pour mes élèves, quand j'en parle, ils retiennent la question de la puissance des forces morales, mais ils retiennent rarement le point de départ, qui est la faiblesse. Voilà. Donc il y a vraiment quelque chose qui consiste à évacuer ce qui est peut-être dérangeant dans l'analyse d'Ardan Dupic, et pour finalement revenir à une conception assez romantique, quelque chose... La couleur après de ce romantisme, mais assez romantique autour de ses forces morales.
Il y a une citation qui est dans le livre évidemment d'Ardan Dupic, qui est assez amusante. Il dit qu'est-ce que c'est qu'un combat ? C'est une pasquinade. Une pasquinade, c'est-à-dire une fable, une connerie, tout ce qu'on veut. Et il dit finalement ce n'est qu'un mélange de peur, de vanité, etc. Il exécute totalement le combat. Hein, donc, mais il est mort au champ d'honneur, donc il peut se permettre de le dire.
Il se fait toujours
Oui, mais enfin bon, il est mort. Ah ben, en 70, oui.
Ah ben, pendant la guerre. Je ne sais plus où exactement.
Comme Drian.
Ah oui, absolument.
Bon, oui. Une question, j'ai lu Ardan Dupic il y a longtemps, enfin, et je ne me souviens pas s'il faisait le rapprochement que vous avez effectué à la fin avec Clausewitz, c'est-à-dire le centre de gravité de l'adverse, de l'ennemi, qu'il faut conquérir pour désarmer moralement l'ennemi. Est-ce que...
Non, il n'y a pas l'équivalent.
Parce que c'est le lien, c'est le lien, enfin, je crois. Enfin, ouais.
Il me semble que sur forcer la volonté, la question de la volonté chez Clausewitz au niveau stratégique, et la question de la démoralisation, là oui, il me semble qu'il y a une façon de penser.
Plutôt au niveau stratégique, c'est que vous avez terminé par Ardan se hisse à ce niveau-là, et je disais, pour faire la liaison avec Clausewitz, je crois que c'est celle-là, et très curieusement, la notion, ou le concept de centre de gravité de l'ennemi, qui figure explicitement et qui m'avait frappé dans la lecture de Clausewitz dès le départ, est très largement ignoré, même de Raymond Aron. Je me rappelle le séminaire où il travaillait sur son futur Clausewitz, et il avait pris la parole pour décliner les thèmes fondamentaux et manquer le centre de gravité. Alors je m'étais permis de... Bon, parce que je n'avais pas peur de lui. Mais pourquoi vous n'avez pas parlé ? Ah oui, sans doute, oui, en effet. Mais non. C'est assez curieux pour un sociologue. Enfin, c'est quand même essentiel. Enfin bon, c'est comme ça.
Enfin, mais maintenant, c'est dans la doctrine de l'OTAN.
Ah oui ?
Ah oui, le centre de la doctrine de l'OTAN, c'est-à-dire de l'histoire de chercher le centre de gravité de l'autre, etc., pour jouer avec, ça allait dans la fameuse doctrine par la marine.
Là, je crois qu'il faut y aller.